Si vous le permettez, je vais donc introduire maintenant Pascal Lamy, qui ne mérite pas, n'a pas besoin d'introduction, mais je note simplement qu'il a été conseiller de Jacques Delors, directeur adjoint du cabinet de Pierre Mauroy, directeur du cabinet de Jacques Delors à la Commission à Bruxelles, commissaire européen pour le commerce de 1999 à 2004, et je dirais, de notre point de vue, disons, de la gouvernance entendue au sens mondial du terme, et pas simplement européen ou français, directeur général de l'Organisation mondiale du commerce de 2005 à 2013, et, sauf erreur de ma part, réélu sans contestation pour un second mandat, ce qui, je crois, n'était jamais arrivé. Je note en passant, mais la carrière de Pascal Lamy ne s'arrête pas à cette retraite de l'OMC. Il a continué à travailler d'arrache-pied. Je ne peux pas énoncer toutes ses responsabilités. Je prendrai trop de son propre temps et du vôtre, mes chers confrères. Notons simplement qu'il est président émérite de l'Institut Jacques Delors, président du Forum pour la paix, qui est installé à Paris et qui est extraordinairement actif. Il est toujours, je crois, et a été certainement, puisque j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler pour la commission de l'Oxford Martin School sur les défis du futur. Bref, j'arrête là parce que j'aurais trop de choses à dire. Ce n'est donc pas un homme qui a exercé de très importantes responsabilités dans le passé que nous avons sous les yeux, mais un homme qui est très branché sur la gouvernance mondiale aujourd'hui. Et c'est le titre que je lui ai proposé, la gouvernance mondiale. Alors j'avais ajouté le point de vue de l'ancien directeur général de l'OMC, ce qui est beaucoup trop restrictif, à vrai dire. Donc la gouvernance mondiale, mon cher Pascal, nous t'écoutons.
Bien, merci, cher Jean-Claude. Merci pour votre invitation sur un sujet qui est très vaste. Que serait, que pourrait être une bonne gouvernance mondiale ? Un sujet sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler, de réfléchir, depuis en gros une quarantaine d'années, à partir du moment où j'ai fait mes premiers pas comme Sherpa du G7, comme Sherpa de Jacques Delors en 1985. Et donc je vais aborder cette question avec le recul, celui de l'expérience, mais celui que permet la chance qui m'a été donnée, de parcourir successivement les trois états de la gouvernance, le solide national, le liquide européen et le gazeux mondial. Et je crois que ceci permet d'aborder cette question dans son ensemble. Je commencerai par un rapide état des lieux. Hélas, celui-ci ne mérite pas de long développement. Aujourd'hui, le déficit de gouvernance globale est tout aussi flagrant que déprimant. En tout cas, dans ces années que j'ai passées à l'international, je n'ai jamais vu un monde aussi désorganisé, aussi dangereux, aussi brutal, aussi fragmenté. Jamais, je crois que c'est vrai en gros depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la paix, qui est en quelque sorte ce bien public mondial numéro un, n'a été aussi menacée. La Bible parle des 10 plaies d'Égypte. Je crois qu'on peut parler des 100 plaies du monde d'aujourd'hui, des conflits ouverts, des guerres, le choc de l'invasion russe en Ukraine, la charte de l'ONU piétinée, le Soudan, la terrible attaque du Hamas en Israël ces derniers jours, le recul de la démocratie, le sillage de la pandémie Covid, la malnutrition en hausse, l'endettement excessif des pays en voie de développement, l'accélération du réchauffement climatique, pour ne pas parler de la paralysie du Conseil de sécurité des Nations Unies ou de l'affaiblissement de la plupart des grandes organisations internationales ou même de l'effacement de ce qui servait comme traité de désarmement. J'arrête là cette litanie, déprimante en effet, pour essayer d'analyser les causes, ce que nous cartésiens aimons bien faire avant d'essayer de tracer quelques perspectives. Dans les causes, je vois deux grandes catégories de causes. Une première d'ordre structurel, les causes qui sont en quelque sorte, de mon point de vue, intrinsèques à l'ordre westphalien dans lequel nous vivons, et puis, par ailleurs, d'autres causes qui tiennent aux dynamiques géopolitiques négatives qui se sont développées fortement depuis une quinzaine d'années. Alors, je commence par les causes structurelles. Qu'est-ce qu'on attend d'une bonne gouvernance internationale? En gros, je crois qu'on attend un équilibre satisfaisant entre des rivalités incontournables et une coopération indispensable. Pour faire très simple, et si l'on essaie d'appliquer à ce mandat extrêmement simple ce que l'on considère comme en général étant les attributs de la gouvernance, tels qu'on les considère au niveau national, j'en vois quatre. Le leadership, la légitimité, l'efficience et la cohérence. L'autorité, le leadership, de donner un sens collectif, la légitimité qui assoit cette autorité dans une reconnaissance, l'efficience qui est de l'ordre de la capacité de mettre en œuvre ce qui est décidé, de police au sens large du terme, et enfin la cohérence qui consiste à agréger des préférences collectives inévitablement différentes dans le monde. C'est en général ce qu'on attend d'une gouvernance nationale, et c'est que beaucoup attendraient ou attendent d'une bonne gouvernance internationale. Il se trouve simplement que l'ordre dans lequel nous vivons depuis 1648, la paix de Westphalie, qui a fondé les relations internationales sur la souveraineté des États-nations, alors c'était un progrès, de se faire la guerre pour autre chose que la religion, et ça a été un grand progrès dans l'humanité. Cependant, il me paraît tout à fait clair que ce principe de souveraineté, le fait que le système international est fait de molécules souveraines, des États-nations souverains, ne laisse que très très peu de marge à l'application d'une gouvernance telle que je l'ai définie brièvement. Le leadership, il n'y a pas de raison qu'il y en ait un, puisque les États-nations sont égaux en droit, et donc Tuvalu égale les États-Unis d'Amérique dans le principe du droit international public qui est celui d'aujourd'hui, et qu'au fond, il n'y a pas de leader, il n'y a pas d'autorité sans un hégémone qui est immédiatement, évidemment, susceptible de contestation. La légitimité est inévitablement extrêmement faible, tant elle est, et ça a toujours été le cas, et sans paraphraser Althusius qui a posé le principe de subsidiarité, la légitimité est forcément affaiblie par la distance. La légitimité implique un sentiment d'appartenance à une certaine forme de communauté. Elle n'existe pas au plan international. L'efficience est évidemment aussi un énorme problème, aussi longtemps que ces États-nations souverains gardent la capacité de se mettre d'accord ou pas, de signer des traités, de s'en retirer d'ailleurs, de bâtir des institutions, mais surtout aussi longtemps que le principe juridique prévaut dans cet ordre westphalien, que le souverain peut s'opposer à toute décision qui le mettrait en cause, y compris avec une institution importante dans le droit international public qui s'appelle la Cour internationale de justice. Mais chacun sait que dans l'ordre juridique westphalien, les décisions de la Cour internationale de justice ne s'imposent pas aux États. Un État qui perd un procès à la Cour internationale de justice garde l'autorité, la souveraineté, ou pas, d'appliquer la détermination du juge. Il y a donc un énorme obstacle à tout ce qui ressemble à de l'efficience. Quant à la cohérence, je l'ai parfois définie de cette manière, et je sais qu'il y a parmi vous d'anciens diplomates que ça peut choquer, mais à mes yeux et d'expérience, la souveraineté, ça reste souvent le monopole de l'incohérence. J'en donne un exemple tout à fait trivial. J'ai été directeur général de l'OMC. Les membres de l'OMC et ceux de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, sont les mêmes. En gros, les 193 États membres de cette planète, pas tout à fait. Eh bien, les membres de l'OMC sont observateurs à l'OIT, parce que les membres de l'OMC ont décidé qu'ils étaient observateurs à l'OIT. Mais les membres de l'OIT, qui sont les mêmes, ont décidé que l'OIT ne pouvait pas être observateur à l'OMC. Voilà un exemple tout simple de type d'incohérence dans lequel, inévitablement, nous vivons. Et donc, ces causes structurelles, ces causes westphaliennes, sont évidemment un énorme obstacle à tout ce qui ressemble à une gouvernance caractérisé par les quelques principes que j'ai esquissés. Et donc, en terminant sur ce point, il ne faut pas attendre beaucoup d'une gouvernance internationale qui ressemblerait à ce que nous attendons des gouvernances nationales ou régionales ou municipales. Et dans ces conditions, c'est assez logique, le rêve, en quelque sorte, d'un espèce de gouvernement mondial reste une utopie pour certains, probablement une dystopie pour d'autres d'ailleurs, mais il faut examiner cette question avec beaucoup d'humilité compte tenu du contexte dans lequel on opère. Alors, comme si tout ceci ne suffisait pas pour expliquer en quelque sorte un déficit assez flagrant de gouvernance internationale, nous avons connu depuis une quinzaine d'années une série de dynamiques de développement géopolitique qui ont évidemment fortement accentué les tensions de ce monde. Et dans la mesure où le système international reste basé sur la volonté d'États-nations souverains, lorsque ces États-nations souverains se considèrent comme rivaux, inévitablement, le système dans son entier a tendance à s'amoindrir, voire à s'affaisser. C'est évidemment le cas des tensions Est-Ouest, mais c'est aussi le cas des tensions Nord-Sud. Dans le cas Est-Ouest, on ne peut que penser d'abord à la rivalité sino-américaine, qui est et demeurera dans les décennies à venir, le fond de tableau essentiel du système international. dès lors que maintenant, ces deux très grandes puissances qui dominent le monde aujourd'hui sont habitées l'une et l'autre par un sentiment de vulnérabilité à l'égard l'une de l'autre. À partir du moment où les Américains considèrent que la Chine est leur ennemi le plus menaçant et que du coup la Chine considère que les États-Unis est leur ennemi le plus menaçant, alors tout un tas de conséquences en découlent dans le système international. Et je crois qu'il ne faut aujourd'hui que le constater espérer que ceci ne débouchera pas, ou en tout cas pas trop vite, dans un conflit armé, par exemple autour de Taïwan. Possibilité, disons, aujourd'hui réduite, mais loin d'être nulle. Et comme chacun sait, ce qui compte, ce n'est pas la probabilité, aussi faible soit-elle, c'est le produit de la probabilité par le résultat. Ça s'appelle l'espérance mathématique. Et dans le cas d'un conflit sur Taïwan, c'est évidemment quelque chose de considérable. On a d'ailleurs aussi, malheureusement, nous, Européens, on est aux premières loges sur cette invasion russe en Ukraine. C'était l'énorme choc de février 2022. Et je crois, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, qu'on ne peut pas interpréter, mesurer ce choc, l'expliquer, et notamment cette espèce de mariage de convenance entre la Chine et la Russie, d'alliance narrative, dans le cas de l'Ukraine, sans se référer à ce fond de tableau de rivalité sino-américaine. Si la Chine est alliée narrative, pour autant qu'on le sache, pas beaucoup plus à ce stade de la Russie dans cette affaire, c'est évidemment par opposition aux États-Unis et à ce que la coalition qui soutient l'Ukraine représente de puissance occidentale. Ces tensions ne sont pas seulement Est-Ouest. Celles-là, on les connaît. Elles se sont malheureusement très souvent exprimées. Il y a dans le système d'aujourd'hui, et je le vois d'assez près depuis une dizaine d'années, une montée des tensions nord-sud, avec évidemment un terreau propice aux tensions, aux frustrations, qui est la mémoire coloniale, dont je constate chez un certain nombre de pays que je continue à pratiquer, qu'elle est aujourd'hui beaucoup plus vive qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans. Il y a une espèce de résurgence de cette critique, en grande partie justifiée, de ce que fut le colonialisme occidental. Un sentiment d'injustice, de double standard, les Occidentaux se comportant au fond, comme ça les arrange, au nom de règles qu'ils ont établies, j'y reviendrai, mais enfin, quand ça les arrange d'en sortir, ils savent le faire. C'est en tout cas la critique qui est posée. On l'a vu avec l'épisode Covid, formidable injustice dans la manière dont l'affaire des vaccins a été traitée et qui a laissé des traces considérables, et notamment sur le continent africain. Et je le vois, et j'y reviendrai sans doute, je le vois de très près maintenant sur les questions climatiques dans lesquelles je passe beaucoup de temps. La question climatique est en train de durcir la relation Nord-Sud, tant il est vrai que, en gros, c'est quand même le Nord qui est responsable de ce qu'il y a comme stock d'oxyde de carbone dans l'atmosphère, et que ce Sud n'y est pas pour grand-chose. Et que par conséquent, la géométrie et la topographie que nous, du Nord ou de l'Ouest, nous avons des priorités, n'est pas forcément celle des pays du Sud, qui considèrent que nous devons cesser d'émettre de l'oxyde de carbone, ce qui ne fait pas de doute, mais qui considèrent aussi qu'à supposer qu'on y arrive et qu'on le fasse, c'est loin d'être terminé, parce que ce qu'il y a dans la stratosphère pour les 300 ans qui viennent, et qui continuera à réchauffer la planète si on ne s'y prend pas autrement, exerce des pressions et des dommages qui sont beaucoup plus importants chez eux que chez nous, compte tenu de leur localisation géographique. Et puis, il y a, et j'en termine sur ce point, pour ce qui est des tensions, il y a maintenant une sorte d'agrégation entre les tensions Est-Ouest et les tensions Nord-Sud. La Chine, par exemple, s'employant à coaguler des tensions Est-Ouest et des tensions Nord-Sud, et notamment dans ce pilotage du groupe des BRICS, qui, comme chacun sait, s'est étendu à des pays en général assez peu coopératifs au plan international, comme l'Iran, par exemple, récemment. Et sous la houlette de la Chine, il y a maintenant effectivement une forme de coalition qui est une coalition de contestation du système établi. Non pas d'ailleurs pour l'instant que cette coalition soit capable de proposer quelque chose de différent. Je crois qu'elle en serait bien incapable aujourd'hui, tant en réalité, quand on regarde de l'intérieur, leurs relations bilatérales, et notamment entre l'Inde et la Chine, ou entre le Brésil et un certain nombre des pays africains. Il n'y a pas d'unité dans ce groupe, mais il y a une puissance qui déploie une diplomatie, un narratif, des moyens pour donner à ces tensions un caractère global. Je ne suis pas de ceux qui pratiquent la notion de Sud global, dont je trouve qu'elle est très dangereuse. Non, pas d'ailleurs, pas plus que cette opposition qui est assez en vogue à Pékin, à Moscou et même à Washington d'ailleurs, de l'Ouest contre le reste. Je pense que ces narratifs sont des narratifs dangereux qui peignent une réalité d'une manière intentionnellement antagonistique, il n'empêche qu'elles sont là. Est-ce qu'il y a derrière tout ça, et j'en termine sur les causes, c'est évidemment l'obsolescence du système dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il faut reconnaître que ce système est le produit des arrangements qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale entre les vainqueurs, et qu'il n'a absolument pas enregistré la plupart des transformations qui sont intervenues depuis, et notamment des rapports de puissance. C'est une évidence. Il suffit de comparer la composition du Conseil national de sécurité et la liste des puissances qui ont un droit de veto, ou de considérer, par exemple, que les droits de vote au FMI sont à 17% américains, à 6% chinois et à 3% brésiliens, pour comprendre que nous sommes en face d'inégalités, de non-ajustements, dont il est très difficile de ne pas les interpréter comme des injustices quand on est, si je puis dire, de l'autre côté de la barrière. Et ceci, évidemment, compte énormément. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant, toutes les tentatives, toutes les propositions, toutes les élucubrations qui ont été faites, et on y réfléchit depuis très longtemps, se sont heurtées à des vétos. Le principal veto, comme chacun sait, étant le veto américain, et compte tenu de la puissance qu'ils exercent dans le système, jusqu'à présent, ce veto américain est un verrou. Cette situation présente de grands dangers. Des dangers économiques, parce qu'un monde fragmenté où le protectionnisme trouverait son chemin, et on en a quelques signaux pour l'instant, sera un monde économiquement moins efficace, moins d'efficience, donc moins de croissance, donc moins de développement, donc plus de tensions, parce qu'à la fin du fin, c'est bien vers la difficulté économique et sociale, c'est bien la peine des humains qui est à l'origine des conflits que l'humanité a connus. Mais c'est aussi un problème politique parce que la manifestation d'une impuissance du système international conduit inévitablement a des conséquences sur la vie politique nationale. Le nationalisme, cette idée que mon pays passe en premier, cette penchant populiste ou xénophobiste qu'on voit se développer, et c'est très net dans la plupart des parties du monde, il y a donc là un problème qui rapproche en quelque sorte tous ces phénomènes internationaux, globaux, parfois très lointains, de nos vies politiques nationales. Et je crois qu'il faut bien comprendre cette articulation pour percevoir les dangers du système actuel. Un ordre ancien est en train de montrer son incapacité. Il n'y a pas, pour l'instant, d'ordre nouveau qui semble devoir succéder à cet ordre ancien. Et comme le disait Gramsci, entre l'ordre ancien qui s'effondre et l'ordre nouveau qui n'apparaît pas, il disait de sa prison italienne, dans cet espace, dans cet interrègne, surgissent des monstres. Et les monstres sont dangereux. Alors, cette analyse est en fait, rapidement, que peut-on faire ? Peut-on mieux faire ? Peut-on tracer un certain nombre de perspectives ? Je vais en décrire quelques-unes pour ne pas rester sur ce constat déprimant. Trois grandes perspectives, à mon avis. L'une que j'appellerais néo-westphalienne, une que j'appellerais supra-westphalienne, et une troisième que j'appellerais para-westphalienne. Commençons par le néo-westphalien. Nous restons donc dans le système westphalien. 193 États, nations, souverains, aptes à passer ou non des arrangements, des traités, à établir des organisations internationales, dont le droit international et la tradition nous disent toujours qu'elles sont conduites par leurs membres. J'ai été directeur général d'une organisation internationale qui s'appelle l'OMC. Eh bien, la doctrine à l'OMC, c'est que ce n'est pas le directeur général de l'OMC qui conduit l'OMC. Ce sont les membres de l'OMC qui conduisent l'OMC. Et je cite d'ailleurs une anecdote sur ce point. Quand j'ai été élu directeur général, un ancien directeur général adjoint de l'OMC, il s'appelle Andrew Stoller, qui était un Australien futé et bon caricaturiste, m'a offert une caricature que j'ai d'ailleurs affichée dans mon bureau pendant tout le temps de mon mandat, où on voit un joli arbre avec un joli tronc et des jolies feuilles vertes. Et dans cet arbre, s'est crachée une voiture qui est complètement en pièces. Et la légende, en anglais, c'est « member-driven car ». Hein ? Voilà ce qui arrive à une voiture conduite par ses membres. Et je crois que je prends cet exemple car il dit beaucoup de cette réalité. Pour autant, il y a dans ce système, avec les énormes handicaps qu'il possède, il y a des moyens de faire mieux qu'aujourd'hui. J'en cite quelques-uns. Rééquilibrer les poids respectifs des États dans ce système devrait être faisable. Si on faisait un deal d'ensemble, ce serait probablement faisable. Encore faudrait-il effectivement que les tenants de l'ordre d'aujourd'hui l'acceptent en contrepartie de quelque chose d'autre. Évidemment, des améliorations dans les modes de décision de ces organisations internationales, qui sont souvent assez médiévales, habitées parfois par l'unanimité, le plus souvent par le consensus, c'est déjà moins mal que l'unanimité pour prendre des décisions, et dans quelques rares cas, par des majorités plus ou moins qualifiées. C'est évidemment un sujet crucial dans le fonctionnement de ces organisations. On pourrait d'ailleurs aussi, par exemple, songer à moderniser la manière dont sont recrutés les dirigeants de ces organisations internationales qui, dans la plupart des cas, se trouvent propulsés à la tête d'endroits importants, à la suite, encore une fois, que les diplomates me pardonnent, de combines diplomatiques assez obscures qui font que je vote pour toi cette fois-ci et tu voteras pour moi dans deux ans et peut-être que je revoterai pour toi dans 5 ans. Dans la plupart des cas, c'est comme ça que ça se passe. Et évidemment, ça ne peut pas donner systématiquement de bons résultats, on le comprendra. Il y a aussi évidemment des améliorations qui consistent à insérer dans ce système des groupes plus ou moins informels. Ça a été le cas du G7, c'est le cas aujourd'hui du G20, où au fond, on peut produire un peu de leadership et un peu de cohérence. On ne produit pas de légitimité du tout. Il n'y a aucune légitimité dans le G20 ou dans le G7. Il n'y a pas non plus, d'ailleurs, beaucoup d'efficience. Mais enfin, de temps en temps, ça arrive. De temps en temps, il y a des percées, des progrès. Le G20, par exemple, a accouché d'une forme de réforme de la taxation des multinationales qui n'est pas sans intérêt. Et ça date... ceci est relativement récent. Donc il y a des améliorations dans ce domaine. Simplement, il faut faire la croix sur la légitimité. Et d'ailleurs, il arrive parfois, dans ce système dans lequel j'ai navigué, qu'on constate que les organisations les plus efficaces sont les moins légitimes, et les plus légitimes sont les moins efficaces. Par exemple, l'Assemblée générale des Nations unies, les Nations unies, c'est extrêmement légitime. Si vous faites des sondages dans les populations, les gens trouvent que les Nations unies sont extrêmement légitimes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats ne sont pas à la hauteur de cette légitimité. Il y a un autre sujet, si on s'intéresse aux améliorations à apporter au système restant d'ordre westphalien, qui est tout ce qui tourne autour des valeurs. Et c'est la question du logiciel. Une gouvernance, en général... c'est au service d'une communauté, et cette communauté, et ce qui fait communauté, c'est la croyance en un certain nombre de valeurs communes. Et la question se pose dans le monde d'aujourd'hui. Alors, on a une déclaration des droits de l'homme, oui, qui date de l'époque où elle a été mise au point par les Occidentaux, avec le concours d'ailleurs de quelques bons cerveaux chinois et indiens à l'époque. Mais enfin, c'est quand même... une doctrine occidentale, et la question se pose de savoir si ou non on peut rester avec ce logiciel daté, en quelque sorte. Et il faut croire qu'il est daté, parce que, par exemple, la Chine, maintenant, s'évertue, dans le système international, à écarter aussi souvent que possible la référence à les déclarations universelles des droits de l'homme. C'est pas un hasard, ça leur va pas. Il y a sans doute des raisons pour lesquelles ça n'en va pas, et on peut en deviner quelques-unes assez facilement, mais ça n'est pas forcément le cas de toutes. Donc il y a là une question à laquelle je crois il faut réfléchir, il faut se confronter. Il est vrai que cette Déclaration universelle des droits de l'homme, aujourd'hui, ne représente pas ou plus un consensus suffisant pour servir de base en quelque sorte idéologique à ce que ce serait une bonne gouvernance. Il y a du pour, il y a du contre. Le pour, c'est de donner un signal que le système international est prêt à enregistrer des changements qui se sont passés et qu'il n'enregistre pas. Le contre, évidemment, c'est de rouvrir une espèce de boîte de Pandore et d'arriver nulle part dès lors qu'on partirait dans des... considérations philosophiques. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'endroits où on y réfléchit dans ce monde, et notamment d'ailleurs dans les mouvements, disons, de foi, ou, disons, d'appartenance religieuse sur tous les continents. Il y a un début de considération de ces questions, mais rien qui, aujourd'hui, disons, ne donne le signal net que nous devons rétablir, retricoter, renégocier un système de valeurs qui serve de base à une gouvernance internationale. Donc voilà pour le néo-westphalien. Je passe rapidement sur ce que j'appelle le supra-westphalien. Alors, qu'est-ce que c'est que le supra-westphalien ? C'est du westphalien. Nous avons toujours 193 États-nations souverains, mais avec un dispositif qui permet d'entamer la souveraineté dans le cas d'un contentieux qu'un État-nation souverain perdrait. Je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas le cas aujourd'hui avec le droit international public. La Cour de justice de La Haye prononce des arrêts qui sont ou non mis en œuvre selon que le souverain l'accepte ou non. Alors il y a deux exceptions à ceci, où il y avait, où il y a, selon la manière dont on voit les choses. Il y a effectivement l'OMC, et puis il y a l'Union européenne, qui est un cas très spécial. C'est le cas, ou c'était le cas à l'OMC, entre 1994 et en gros 2016-2017-2018, quand les Américains ont paralysé le mécanisme de règlement des différends de l'OMC, qui, lui, était ainsi négocié et pratiqué qu'une partie perdante à un litige, un État qui, aux yeux des autres, n'appliquait pas les règles de l'OMC, encourait un procès. Ce procès se développait avec une première instance et une cour d'appel. Et si la cour d'appel donnait tort à l'État en question, alors l'État en question devait obtempérer, sauf à encourir le risque de sanction. Donc là, on a effectivement un mécanisme de mise en œuvre de police avec des dents, qui n'existe quasiment pas dans le système international. On trouve quelques traces de ça dans le chapitre 7 des Nations Unies, mais enfin, les cas d'application ont été tellement limités que ça n'est pas significatif. Alors, à l'OMC, ça a été fait de manière très subtile et très intelligente par des diplomates commerciaux, parce que le principe précédent, celui qui existait du temps du GATT, était qu'on restait dans le système westphalien, c'est-à-dire que les États devaient être d'accord pour appliquer la détermination du juge, y compris la partie perdante. Et en 1994, quelqu'un a eu l'idée assez géniale de ne rien changer dans le texte, juste de mettre une footnote en disant « l'État perdant ne pourra pas s'opposer au consensus ». Alors, c'était une footnote, on n'a pas fait une grande affaire de tout ça. Enfin, ça a tout changé, parce qu'à partir de ce moment-là, l'État perdant est obligé, et on n'a pas dit qu'il faisait l'objet de sanctions, on a dit que dès lors qu'il n'appliquait pas la décision du juge, alors il déséquilibrait les devoirs auxquels les États se doivent les uns les autres, et que, par conséquent, pour le prix de ce déséquilibre, d'autres pouvaient exercer des compensations. Alors, ça n'est pas des sanctions, c'est des compensations. Comme quoi, avec un peu d'imagination, même dans ce système, on peut faire des changements très importants. C'est ainsi que l'OMC, effectivement, est devenue une autorité supranationale, ou plus exactement, la cour d'appel de l'OMC, les juges qui siégeaient à la cour d'appel de l'OMC, exerçaient une autorité supranationale. Les Américains ont accepté ça en 1994, parce qu'ils avaient un négociateur extrêmement futé, très très bon orateur au Congrès, et qui en gros a réussi à expliquer au Congrès que c'était pas si grave. Alors que nous savons parfaitement, les Américains ont toujours systématiquement refusé toute trace de supranationalité, au point d'ailleurs de ne pas ratifier à peu près la moitié des accords internationaux qu'ils ont signés. Ça a duré jusqu'à M. Trump, ou plus exactement, jusqu'à avant M. Trump, ou un moment dans lequel il y a eu une réaction dans le système juridique américain, et notamment au Congrès, et notamment à cause de la prédominance des juristes commerciaux dans le financement d'un certain nombre de campagnes électorales aux États-Unis. Et aujourd'hui, les Américains ont paralysé le système en refusant de désigner des juges. Et, disons, je ne dirais pas ça si nous étions dans le public, mais enfin, mon successeur a considéré que les Américains avaient le droit de ne pas nommer des juges et qu'une cour d'appel où il n'y avait pas de juges américains était une cour d'appel non fonctionnelle. Je ferme cette parenthèse, je ne donnerai d'interprétation à cette question qu'en privé, mais le fait est que l'endroit où on avait, en quelque sorte, accepté une petite dose de supranationalité avec les conséquences qu'on connaît, aujourd'hui, ça n'existe plus. Ou plus exactement, ça n'existe plus pour les Américains, parce que les Européens ont eu la bonne idée de proposer que le système continue à fonctionner entre ceux qui veulent bien le faire fonctionner, et qu'à ce moment-là, on suit les règles précédentes. C'est d'ailleurs le cas pour le moment. L'autre cas, évidemment, où on a accepté une forme de supranationalité en termes juridiques, c'est le cas de l'Union européenne, qui est une autre exception, sur laquelle je reviendrai, puisque on doit quand même considérer que l'Union européenne n'est pas un État-nation. C'est quelque chose d'un peu différent. Delors appelle ça une fédération d'États-nations, un concept un peu oxymorique à mon sens, mais il y a de ce point de vue aussi une exception européenne. Voilà pour le supra-westphalien. J'en viens à ce que j'appelle le para-westphalien, qui consiste, dans son principe, à considérer que, puisque c'est la souveraineté qui, en quelque sorte, est l'obstacle fondamental à une meilleure gouvernance internationale, dès lors que les souverains ne sont pas ou plus d'accord, pourquoi ne pas contourner la souveraineté ? Et c'est un peu le concept qui est à la base du Forum de Paris sur la paix qu'on a créé en 2018 avec le président de la République et son directeur général actuel, Justin Vess, qui est un ancien patron du Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay. L'idée qui porte le doux nom de polylatéralisme consiste à observer que les acteurs de la vie internationale aujourd'hui sont loin de n'être que des États-nations. Il y a des multinationales, des organisations non gouvernementales, des villes, des grandes institutions académiques qui sont beaucoup plus puissantes dans l'ordre international que les deux tiers des membres de l'Assemblée générale des Nations unies. Et donc l'idée consiste à dire, bah, puisque il s'agit de régénérer, de dynamiser de la coopération internationale et une gouvernance internationale qui est extrêmement mal en point, ben faisons-le avec d'autres que des États-nations. Alors, pas sans les États-nations, on ne va pas se passer des diplomates, ce serait sûrement une grande erreur, mais travaillons avec des ONG, de la philanthropie, des villes, encore une fois, des grandes institutions académiques mondiales, pour non pas établir un ordre international avec des cathédrales négociées soigneusement pendant 30 ou 40 ans, et puis des chapelles où chacun trouve son ordre, son organisation, ses repères. Non, on ne bâtit pas un système au sens classique du terme. On crée des coalitions. Des coalitions, en quelque sorte, des coalitions à objet déterminé. Il y a un problème. Un certain nombre de gens veulent s'atteler à essayer d'y trouver des solutions. C'est un problème grave, international, de l'ordre de la paix, du développement, de la règle de droit, de la culture. Essayons, avec ces coalitions, de faire avancer les choses. Encore une fois, pas sur le plan global, pas avec peut-être de conception un peu théorique d'une architecture parfaite du système international, mais bâtissons ces coalitions à objet déterminé. Elles marcheront ou pas, elles dureront ou pas, Mais il y a quand même des chances raisonnables pour qu'elle produise un certain nombre de résultats que le système classique ne produit pas. Et c'est ce qui s'est passé. Dans un premier temps, le Forum de Paris sur la paix a été, encore une fois, né en 2018, lorsque le président de la République française a considéré que, outre l'exercice mémoriel indispensable et justifié du 100e anniversaire de l'armistice de 1918, il fallait regarder aussi l'avenir de la paix, au fond. Et l'avenir de la paix, ben, on est en train d'en parler. Et donc, il a commencé par un appel d'offres annuel à des projets sur un certain nombre de thèmes mondiaux. Sont apparues des propositions de coalition émanant des acteurs que j'ai cités rapidement. Et le Forum de Paris sur la paix, dans ce premier temps, s'est donné pour mission d'incuber ces coalitions, de les sélectionner. Il y en avait en gros 500, 600 par an. On en sélectionnait une centaine. Et puis au moment du Forum de Paris sur la paix, dans cette centaine, on en retenait une dizaine, qui ensuite passaient dans un processus d'incubation de manière à leur donner le soutien politique, financier, médiatique qu'elles n'avaient pas forcément pour se développer. Et ça marche plutôt pas mal. Encore une fois, non pas que les États soient hors jeu. Par exemple, au conseil exécutif du Forum de Paris sur la paix, qui est parité nord-sud complète, il y a des ONG, il y a des think tanks, il y a des États, dans des proportions variées d'ailleurs au nord et au sud, il y a de la philanthropie, il y a maintenant une multinationale, et c'est cette diversité qui a permis en quelque sorte de faire émerger, naître et développer un certain nombre de ces projets. J'en cite quelques-uns, protéger le continent antarctique, par exemple, qui devient un sujet environnemental considérable. Adopter une taxonomie commune aux grandes multinationales pour qu'elles mesurent ensemble leur progrès vers la réalisation des objectifs du développement durable des Nations Unies. Monter un fonds mondial pour aider les médias d'intérêt public, soit à naître, soit à persévérer dans des pays où ils ne le peuvent pas ou plus, ce qui est une espèce de bien public mondial, ou aider à la lutte antiterroriste ou à la protection des enfants sur Internet en coalisant des États, des grands spécialistes ou des grandes entreprises du digital et un certain nombre d'organisations non gouvernementales. C'est dans ce domaine qu'on a obtenu un certain nombre de résultats. Et avec cette dynamique, on a ajouté ces dernières années une deuxième branche qui, elle, est plus disons conceptuelle, plus d'ordre think tank, qui consiste à essayer de pousser des projets de gouvernance à la frontière de ce que la gouvernance classique ne produit pas aujourd'hui, par exemple en matière digitale, sur les écosystèmes digitaux, la gouvernance des plateformes, voire la cybersécurité, probablement à partir de l'année prochaine, l'intelligence artificielle. En matière d'environnement, pour explorer de nouvelles pistes du type géo-ingénierie, je viens de présider pendant 2 ans une grande commission mondiale qui a été créée par le Forum de Paris sur la paix et qui regarde et propose un certain nombre de changements compte tenu du risque très fort que nous avons maintenant de dépasser cette fameuse limite d'1,5 degré. Donc il y a là des zones de la gouvernance internationale à explorer. C'est le cas aussi dans l'espace, et notamment sur le problème de la conduite, enfin de la régulation de l'orbite basse au-dessus de la Terre, qui commence à être très fortement encombrée, ou voire même, on est en train de monter une coalition sur l'accès aux matériaux critiques pour disposer en quelque sorte d'une espèce de code de conduite qui allie des préoccupations industrielles, des préoccupations sociales, des préoccupations environnementales. Et donc il y a là de l'espoir, toujours basé sur ce système de coalition. Alors, je termine, pour rester dans le temps qui m'est imparti, en disant un mot de la construction européenne dans ce contexte. Jean Monnet, qui est un des pères fondateurs, disait, et je le cite, « Les nations souveraines du passé ne sont plus le cadre où peuvent se résoudre les problèmes du présent, et la communauté elle-même n'est qu'une étape vers les formes d'organisation du monde de demain. » On est en plein dans notre sujet. Et je termine par cette question de savoir si, au fond, la construction européenne d'aujourd'hui répond ou non à ce rêve de Jean Monnet, dont tous les rêves ne se sont pas exaucés, et notamment celui qu'il avait en commun avec les pères fondateurs de l'Europe, au terme desquels c'est l'intégration des économies qui produirait de l'intégration politique. Cette croyance s'est révélée une erreur anthropologique, non pas que l'Union européenne n'existe pas sur le plan économique, mais c'est vrai que sur le plan politique, on est très 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 loin du rêve des pères fondateurs, et que l'épreuve actuelle est sans doute la plus redoutable de celle qu'a connue l'Union européenne depuis sa création. Je veux parler de l'invasion russe en Ukraine, tant elle met en lumière, en cause, tant elle fait apparaître l'inexistence de l'Union européenne comme acteur géopolitique. C'est pas que les discours manquent, mais il est parfaitement clair que si, j'espère que ça ne sera jamais le cas, mais si les Américains venaient à lâcher l'Ukraine, les Européens ne tiendraient pas l'Ukraine. Donc nous avons là un trou considérable. Et ce que nous avons établi entre nous de gouvernance qui pourrait ressembler à un peu une gouvernance internationale telle qu'on la concevait en quelque sorte jusqu'à il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, c'est-à-dire dans un monde dans lequel la géoéconomie avait l'air de finir par l'emporter sur la géopolitique, ce que la géoéconomie peut comporter de coopération, contre ce que la géopolitique peut comporter de rivalité, de conflit. Aujourd'hui, force est de constater que, sauf développement à venir, l'Union européenne, cette construction, n'est plus, en quelque sorte, l'exemple, le prédécesseur, le précurseur de ce que pourrait être une gouvernance internationale, tant il lui manque ce qui caractérise, hélas, de plus en plus le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire la force. Et donc, nous devons, je termine sur cette note pessimiste, nous devons considérer qu'aujourd'hui, ce n'est pas une bonne gouvernance internationale qui nous protège d'une guerre mondiale, c'est tout simplement la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire le règne de la force et pas celle du droit. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup, cher ami, pour cet exposé magistral. Tu as parfaitement rempli le schéma mondial, européen, national que tu avais en tête et que je t'ai plutôt encouragé à parcourir, mais en même temps, tu as été grave et, comment dirais-je, un peu terrible, notamment dans ta conclusion où tu es tellement pessimiste sur l'Europe, alors que peut-être on peut l'être un tout petit peu moins, mais ceci est une autre affaire.